Laudetur Jesus Christus.
Maintien de la présence militaire israélienne dans le sud Liban, le cardinal Rai, patriarche d'Antioche des Maronites, appelle Israël à se retirer, à respecter l'accord de cessez-le-feu. Nous l'entendrons au début de ce journal. Reportage à la frontière au Mexique, à la frontière américaine, où les migrants doivent s'adapter aux nouvelles règles pour pénétrer légalement aux États-Unis, conséquence des mesures restrictives prises par Donald Trump il y a un mois. La guerre civile au Soudan a provoqué la pire crise humanitaire de la planète. La faim se répand dans tout le pays à cause de ces combats entre les paramilitaires et l'armée régulière. Le bel espoir, c'est le nom d'un voilier qui prendra bientôt la mer à Barcelone pour sillonner la Méditerranée portant un message de paix. Une initiative de l'archidiocèse de Marseille dont nous parlera le cardinal Aveline. Témoignage d'un habitant d'Uvira, c'est au sud Kivu. Des affrontements entre l'armée congolaise et les milices Wazalendo ont eu lieu ces derniers jours sur fond d'arrivée des rebelles du M23. Une situation chaotique dont nous parlerons dans notre dossier.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Légère amélioration des conditions cliniques du Saint-Père qui a passé une bonne nuit. Il s'est levé, il a pris son petit déjeuner. C'est ce qu'affirme le dernier bulletin du Vatican. Le Saint-Père qui respire toujours de façon autonome. Son cœur va bien. Les prières des fidèles l'accompagnent, ainsi que celles du patriarche écuménique de Constantinople. Bartholomée lui a adressé une lettre lui souhaitant un prompt et complet rétablissement. La missive lui a été remise en main propre hier par le cardinal Kouvakad, qui s'est rendu à Istanbul pour préparer la visite du pape à Nicée à l'occasion du 1700e anniversaire du premier concile écuménique de l'histoire. Dans l'actualité internationale, malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit ses opérations au Liban. Cette nuit, elle a frappé des points de passage à la frontière syro-libanaise utilisée par le Hezbollah pour introduire, selon elle, des armes sur le territoire libanais. Une violation de l'accord de cessez-le-feu, affirme Israël. Accord partiellement respecté par Israël qui maintient pour sa part des troupes dans 5 positions dans le sud du pays, le long de la frontière libanaise jugée stratégique par le gouvernement israélien. À cette situation, le Liban en appelle au soutien de Washington et de Paris pour qu'Israël se retire totalement. Monseigneur Becher Haraï, patriarche d'Antioche des Maronites, souhaite que l'armée se retire totalement du sud du pays dans le respect des termes de l'accord.
Le sud du Liban, malheureusement, Israël devait se retirer et ne le fait pas. Et ça, c'est contre tout l'accord qui a été fait. Et maintenant, le pays, le Liban, le président, le gouvernement sont en train de convaincre Israël d'évacuer le territoire d'une manière diplomatique, pas par les armes. Alors, ils travaillent avec les pays, les Américains, les Français, les Britanniques, et tout ça par voie diplomatique, non par voie de guerre. Et Israël devrait se retirer, parce que c'est un accord qui a souscrit moralement et doit quitter.
Le cardinal Bechara Boutros Rai, interrogé à Beyrouth par Salvatore Cernuzio. Les Israéliens furieux de la manière dont le Hamas a rendu les corps de 4 otages hier, ceux de 2 enfants, de leur mère et d'un autre otage. Le gouvernement israélien accuse également le Hamas d'avoir tué les 2 petits otages pendant leur captivité à Gaza et surtout de lui avoir remis le corps d'une personne inconnue, une femme de Gaza, à la place de leur mère, ce qui constitue une violation cruelle de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas. C'est ce qu'a estimé il y a quelques minutes le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Toujours en Israël, une série d'explosions a eu lieu hier soir dans des bus à Bat Yam, c'est dans le centre du pays. Les chauffeurs de bus ont été appelés à s'arrêter immédiatement partout dans le pays et à inspecter leurs véhicules pour vérifier qu'il n'y avait pas de bombes à bord. Le gouvernement a également ordonné une opération intensive contre des centres du terrorisme en Cisjordanie. Un mois qu'a eu lieu l'investiture de Donald Trump, mais aussi un mois que l'application CBP One a été désactivée. Cette plateforme des services migratoires américains délivrait des rendez-vous aux migrants, seul moyen légal d'entrer aux États-Unis. Alors depuis un mois, ces migrants coincés au Mexique ont dû improviser après avoir vu les portes de leur rêve américain se fermer. Le reportage de Lucie Achard.
Dans le nord de Mexico, des cabanes de bois s'alignent au bord d'un chemin de fer désaffecté. Leslie, une Vénézuélienne de 27 ans, espérait quitter définitivement le petit abri qu'elle partage avec 6 autres personnes.
Ça faisait si longtemps, quasiment 4 mois, que j'attendais de recevoir ce rendez-vous. Quand je l'ai enfin reçu, le 17 janvier, ce fut une joie immense. Mais elle n'a duré que 3 jours. On n'a même pas pu se faire rembourser les billets d'avion achetés pour aller à la frontière. On s'est retrouvés ruinés. Tout ce qu'on avait économisé, on l'a dépensé dans nos billets d'avion. On a perdu tout cet argent. Et maintenant, on n'a pas d'autre choix que de travailler.
Et recommence à économiser en espérant pouvoir bientôt entrer aux États-Unis. Parce que pour Leslie, comme pour sa voisine Candy, pas question de rester au Mexique ou pire, de rentrer au Venezuela.
Au Venezuela, c'est non. Ce serait retourner en arrière, échouer et se retrouver de nouveau dans ce trou où on était et dont il a été si difficile de sortir. Je ne veux pas non plus croire qu'on va rester au Mexique parce que j'espère qu'ils trouveront un nouveau moyen pour nous faire entrer légalement aux États-Unis. Il faut attendre encore un peu et voir ce qu'il se passe. En attendant, travailler et essayer de survivre, parce que la vie est dure ici.
Mais attendre combien de temps? S'il le faut, encore une année, assure Candy, ou le temps qu'il faudra pour atteindre ce rêve qui nous a fait partir de chez nous. Lucie Achard à Mexico pour Radio Vatican.
La pression s'accentue sur le président ukrainien. Outre celle des États-Unis qui ont repris langue avec la Russie, il y a aussi celle de la Chine. Le chef de la diplomatie chinoise a affirmé ce matin qu'une fenêtre sur la paix s'ouvrait en raison des récents appels en faveur de pourparlers qui se sont accrus, estime-t-il. La famine gagne du terrain au Soudan où se déroule la pire crise humanitaire de la planète. Une situation causée par la guerre entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide et FSR qui ravagent le pays depuis bientôt 2 ans. Comment en est-on arrivé à une telle situation? Les explications d'Augustine Passy.
Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a confirmé mercredi qu'il existe des preuves raisonnables de conditions de famine dans au moins 5 zones du Soudan, les camps de Zamzam, d'Abou Chouk et d'Al Salam au nord d'Arfour, ainsi que 2 localités situées dans les monts Nouba. Un nombre record de 4,7 millions d'enfants de moins de 5 ans, de femmes enceintes et allaitantes et de jeunes filles souffrent de malnutrition aiguë, a ajouté le représentant de l'ONU. La famine a été déclarée dès le mois d'août dans le camp de Zamzam qui accueille le plus grand nombre de déplacés du pays. Ce camp a été bombardé la semaine dernière par les forces de soutien rapide faisant au moins 31 morts et 81 blessés selon le directeur général de la santé du Nord Darfour. Beaucoup de déplacés mourront dans les prochains jours à cause du manque d'eau et d'accès à la nourriture à la suite de la destruction quasi totale du marché, prévient une travailleuse humanitaire basée dans la ville voisine de Tawila. En attendant, les survivants sont rendus à se nourrir de coques d'arachide mélangées à de l'huile. Malgré les appels au cessez-le-feu durant le mois sacré du Ramadan, cette perspective semble peu probable, alors que l'armée et les paramilitaires s'apprêtent à annoncer chacun leur propre gouvernement. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Pensez les blessures de la Méditerranée par l'écoute, le dialogue ou la fraternité. C'est le projet porté en cette année jubilaire par le Bel Espoir, un navire école pour la paix au nom évocateur, suivi avec attention par le pape François. À l'initiative de l'archidiocèse de Marseille, il a été présenté ce jeudi à Rome. En salle de presse du Saint-Siège, le bateau s'élancera de Barcelone dans 10 jours pour une odyssée de 8 mois avec 200 jeunes de toute culture et religion de cette espace géographique qui unit et relie. Le cardinal Jean-Marc Aveline, l'archevêque de la cité phocéenne, revient sur les raisons d'être existentielles de ce bateau d'espérance.
Cette réunion, dont je l'ai averti, est importante pour lui parce que la Méditerranée lui tient à cœur, à cause peut-être de la gravité des situations qui s'y déroulent, à cause aussi d'un aspect laboratoire de ce petit espace dans le monde qui pourtant concentre des défis qui concernent toute l'humanité, et aussi peut-être à cause de la dimension prophétique, cette mer qui est trop large pour confondre et est trop étroite pour séparer. Étant donné qu'il y a le jubilé, on s'était dit que c'était pas le moment de faire quelque chose dans un endroit déterminé, mais plutôt d'avoir une dynamique de pèlerin d'espérance dans la Méditerranée. Et c'est de là qu'est née l'idée donc de ce bateau qui est un navire école pour la paix, dont le projet est donc d'écouter ce qui se passe sur les rives. Trop longtemps, les initiatives méditerranéennes portées par des entités politiques ont surtout été euro-méditerranéennes. Et il ne faut pas qu'on fasse cette erreur. Donc il faut écouter les 5 rives de la Méditerranée. L'Afrique du Nord, le Proche-Orient, la mer Noire et la mer Égée, la péninsule des Balkans et l'Europe du Sud. Et c'est donc pour cela aussi que l'on prend cette initiative.
Le canal Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, le bel espoir, un projet à retrouver sur notre site internet. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC est toujours préoccupante. C'est le cas notamment dans la ville d'Uvira au sud Kivu. La population vit dans la peur alors que le M23 serait arrivé à Sangé, à 35 km de la ville. À Uvira, des affrontements ont eu lieu ces derniers jours entre des soldats de l'armée congolaise qui veulent fuir et les Wazalendo, des milices pro-gouvernementales qui veulent récupérer leurs armes avant de les laisser partir. Il y aurait des morts et des blessés. Les scènes de pillages seront généralisés. Même l'évêché a été pris pour cible hier matin, racketté pour de l'argent. Retour sur la situation de chaos dans la ville avec un de ses habitants qui témoigne anonymement pour des raisons de sécurité.
C'est depuis le samedi que la psychose est entrée dans la ville d'Uvira. Les dimanches, c'était difficile d'aller aux églises. Les lundis, ils sont sortis un peu, il y avait un peu d'accalmie, mais depuis hier, personne n'est sorti. Dans toute la ville, il y a eu des pillages, des magasins, des boutiques qui sont en train d'être pillés par on ne sait pas qui alors, parce que les militaires en profitent et les Wazalendo en profitent. Donc c'est le chaos qui se généralise au niveau de toute la ville. Aujourd'hui, personne n'est sorti, à tel point que c'est devenu maintenant difficile de s'approvisionner même en vivre, même pour trouver d'autres. Et actuellement, la ville n'a pas du courant, l'eau c'est difficile, donc la vie devient de plus en plus difficile ces derniers temps.
Hier, trois hommes armés ont mis en joue l'évêque d'Uvira pour obtenir de l'argent. Monseigneur Muyango Mulumbe va bien, mais qui étaient ces hommes ?
Ça nous dépasse un peu parce que les militaires qui font ça, ce sont des militaires qui sont en train de fuir malheureusement depuis la prise de la ville de Bukavu, aussi la prise de la cité de Kamanyola à quelques kilomètres d'Uvira. Ils ont trouvé une résistance des volontaires de la défense pour la patrie appelée des Wazalendo, des milices pro-gouvernementales qui combattaient avec à côté des FARDC, mais maintenant qui se retournent encore contre les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo.
Pourquoi est-ce que les Wazalendo se sont retournés aujourd'hui contre les soldats de l'armée régulière qui sont censés quand même être dans leur camp ?
Ces Wazalendo, ils voulaient combattre coûte que coûte. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de munitions. Alors, ils voulaient se procurer des armes et des munitions des militaires FARDC. S'ils veulent fuir, qu'ils laissent les armes. Alors c'est que les FARDC aussi n'ont pas accepté, ils n'acceptaient pas jusque-là. Alors il y a toujours des affrontements entre les Wazalendo et les militaires FARDC. Il y a mort d'hommes, il y a des militaires qui meurent, il y a aussi des Wazalendo qui meurent dans ces accrochages.
Du coup, les FARDC sont bloqués en ville, si je comprends bien, par les Wazalendo.
Ces militaires sont ici, ils ne savent plus où aller parce que ils sont coincés. C'est pourquoi ils sont en train de semer cette terreur dans la population. Nous sommes à côté d'eux, ils sont très nombreux. Les militaires, là, ils tirent des balles à n'importe quel moment, quand ils veulent. Ils ne reçoivent des ordres de nulle part, alors ils font tout ce qu'ils veulent, il n'y a personne qui les contrôle. Donc c'est une situation qui nous dépasse un peu, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, on ne sait pas ça va aller jusque quand.
Quelle parole aujourd'hui est celle de l'église d'Uvira, qui évidemment vit les événements en cours et qui est appelée à accompagner les fidèles ?
L'Église peut nous apporter seulement d'abord la parole du réconfort et aussi de l'espérance jubilaire, mais aussi tout soutien n'importe lequel qui peut toujours réconforter le peuple de Dieu et tout le monde. C'est ce qui est nécessaire pour l'instant parce qu'on n'a plus où se réfugier, on n'a pas où aller. Dieu seul peut nous sauver, qui peut toucher le cœur de tout un chacun pour une bonne conversion, ainsi de suite.
Si je comprends bien, vous vous en remettez à Dieu?
Bon, parce qu'on dirait que même le gouvernement, il est impuissant même de sauver ce qu'il peut encore sauver. On ne sait pas où nous sommes. Les M23, qui s'appellent actuellement les libérateurs, s'ils venaient, bon, peut-être ça va un peu cesser, mais est-ce que ça sera une solution durable? On ne sait pas encore.
Préparé par Marie Duhamel, la situation à Uvira au sud Kivu, vue par un de ses habitants, c'était ce matin le dossier de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, à toutes et à tous, une excellente journée.